Il est 9h40 sur France Inter, l'instant M, ça passe vite et ça en dit.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Jean-Xavier de Lestrade a filmé des personnages tantôt broyés, tantôt sauvés par la justice. Il a sur ce thème croisé les fils du documentaire et de la fiction sans jamais les mélanger. Côté fiction, justement, il est le père de Manon. Manon, cette jeune fille enjôlée dans un centre d'éducation fermé. Grand succès de cette mini-série sur Arte. Manon est sortie, Manon grandit, Manon se frotte au monde et à la vie. Elle est étrange, cette gosse de 20 ans. Elle est obsédée. Cédée par l'idée de justice, elle est bien la fille de son père. Bonjour Jean-Xavier de Lestrade.
Bonjour Sonia.
Le papa de Manon, donc, qui lui apprend dans ses trois nouveaux épisodes qu'il faut parfois savoir fermer les yeux sur l'injustice. Manon, 20 ans, diffusé demain sur Arte.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Voilà, on commence par un mot d'actualité des médias voté à l'unanimité par le Parlement israélien. Le projet de loi supprimant les restrictions sur les chaînes d'information internationales produites dans le pays. Eh bien, cet amendement, sachez-le, ne s'applique de facto qu'à une seule chaîne. Elle s'appelle I24 News. C'est la chaîne d'infos en français, en anglais et en arabe de Patrick Drahi, également propriétaire de SFR et de BFM TV en France. I24 News, installée à Tel Aviv, ambitionne de devenir la chaîne d'infos numéro 1 du Moyen-Orient. Elle n'était diffusée que sur le web en Israël. Bascule télévisée obtenue au prix d'un intense lobbying, explique Les Échos ce matin. Suite de l'affaire Hanouna, à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France, la société de production de Touche pas à mon poste, H2O, a déposé hier 3 plaintes. Leur avocat affirme vouloir ainsi, je cite, établir la vérité sur l'existence ou non d'une prétendue victime du canular de Cyril Hanouna mise en dehors de son domicile et ainsi, je cite encore, mettre un terme à toute manipulation. Alors voilà, racontons-le, hein, au lendemain du canular de Cyril Hanouna, l'association Le Refuge avait affirmé qu'un jeune homme, piégé au téléphone, courant de l'émission du 18 mai, avait été viré de chez lui par son père, ayant appris son homosexualité à la télé. Ça a été relayé par les réseaux sociaux, cette déclaration avait fait enfler la polémique, qui a débouché, vous le savez, sur un tombereau de plaintes au CSA et sur le retrait d'une grande partie des annonceurs de Touche pas à mon poste, diffusés sur la chaîne C8. Le Figaro précisait hier quand même que la pub allait reprendre progressivement son cours cette semaine. Ça fait sourire mon invité. Oui, tout s'oublie, hein, c'est ça, la vie des médias. Très très vite. Cyril Hanouna étant lui entendu ce jour par Marlène Schiappa, qui est la secrétaire d'État chargée des questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Manon, 20 ans, c'est la suite de 3 fois Manon. Manon, personnage de fiction incarné à l'écran par la très talentueuse Alba Gaïa Bellucci. Manon apprendra-t-elle à être heureuse? Manon, personnage qui voit s'ouvrir à elle les portes de la liberté, du plaisir, de la sociabilité et qui se débrouille pour que chacune de ses portes se referme violemment sur elle, sur ses doigts, ça fait très mal. Manon, c'est l'histoire d'une fille abandonnée par son père à la naissance et dévorée par sa mère. C'est quelqu'un qui ne peut manifestement, Jean-Xavier de Lestrade, jamais trouver du coup la bonne distance aux autres et la bonne distance au monde parce que elle est soit trop loin, soit trop proche.
Bah, vous avez décrit sa généalogie et c'est vrai que dans ces conditions, c'est difficile. C'est difficile de grandir, c'est difficile de trouver sa place dans le monde. C'est difficile surtout de savoir que l'on a une véritable valeur en soi. Et quand on s'estime aussi peu, il est très difficile ensuite de donner sa confiance aux autres, donc d'établir des vraies relations avec les autres, et donc aussi de savoir et pouvoir apprécier la vie.
Alors tout l'enjeu de cette deuxième saison, parce que justement elle est sortie de ce centre éducatif fermé, dans lequel elle était entrée après le coup de couteau qu'elle a donné à sa mère, tout l'enjeu de cette deuxième saison, c'est de filmer ce personnage dans un milieu ouvert, justement, et de voir comment elle va circuler dans un milieu ouvert, puisque vous l'avez filmé enfermé avec les autres.
Oui, là, c'était l'enjeu, c'était surtout de... effectivement, tout à l'heure, je disais trouver sa place. En fait, c'est maintenant, elle doit trouver aujourd'hui sa place dans le monde du travail, elle doit trouver sa place dans le monde des relations affectives, les relations avec les autres, que ça soit amical ou sexuel, et elle doit trouver sa place aussi de manière extrêmement, ça c'est extrêmement important pour elle, trouver sa place dans la généalogie, sa place avec sa mère, vraiment assigner chacun à la bonne place, et aussi sa place vis-à-vis de son père qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais connu, et que là on va essayer de faire rencontrer.
Alors justement, Marina Foïs incarne cette mère dite toxique à qui Manon a donné un coup de couteau, je le disais tout à l'heure, à l'ouverture de la précédente série, hein, c'est vraiment le tout début du premier épisode. Elle coupe parce qu'en fait elle ne parvient pas à s'éloigner, elle coupe.
Oui, c'était vraiment, c'était une métaphore assez forte. Donc la première scène de la première saison de Trois Femmes Manon, on voyait cette jeune adolescente qui donnait un coup de couteau dans le ventre de sa mère, et c'était une forme de couper le cordon ombilical. Donc d'essayer de premier geste, et extrêmement violent, mais premier geste pour signifier « je veux me séparer de toi ». Vous dites elle est toxique, mais effectivement c'est quelqu'un qui aime, mais qui aime d'une manière extrêmement débordante, et qui fait que sa fille ne peut pas avoir de vie propre, ne peut pas avoir d'intimité.
On l'écoute, et... la mère, on l'écoute.
Faut qu'on se parle, tu sais, mon cœur. Qu'est-ce qui t'agite autant Tu veux pas me dire? C'est parfois, même si c'est douloureux, c'est... Les secrets dans une famille, c'est malsain. Vaut mieux tout mettre sur la table, parce que... Après, sinon, ça fermente. Qu'est-ce que tu fais, Manon? Tu vas où?
Manon, elle coupe ou elle claque des portes? Elle claque beaucoup de portes.
Oui, Manon, elle claque. Tendance à fuir. Comment... quand c'est trop difficile.
Comment vous avez traité, Jean-Xavier Lestrade, ce personnage maternel destructeur? Parce que cette perversité malfaisante, vous la traitez de manière en réalité assez feutrée, assez ténue. Il y a peu de hurlements, il y a peu de scènes spectaculaires, il n'y en a pas même dans cette deuxième saison.
Il y en a pas, parce que au fond, pour moi, ce qui est le plus souvent, ce qui est le plus violent, le plus dangereux, c'est ce qui ne se voit pas, c'est les choses qui se passent dans la douceur, dans, et l'extrait que vous venez de faire écouter aux auditeurs, c'est très caractéristique, hein, de ce qu'est la mère. Et là, ce qu'on a entendu, c'est quelqu'un qui a l'air d'être attentionné, qui a l'air d'être bienveillant, qui a l'air d'être très doux. Et au fond, c'est ce type de perversité-là qui peut faire le plus de dégâts et qui fait le plus mal.
C'est un récit initiatique, Manon. Récit initiatique où elle apprend, comme vous le disiez, aussi la sensualité, la sexualité, l'amour pour l'autre, mais aussi l'amour de l'autre. C'est parfois aussi difficile dans les deux sens. Avec une femme, notamment. Alors, dans la précédente saison, il y a eu un très beau personnage de professeur de français qui restait vraiment un marqueur pour Manon. Elle en reparle systématiquement. Est-ce que Manon, malade de sa mère, doit avoir à chaque fois un contrepoint féminin, une forme de deuxième voix féminine?
Oui, à partir du moment où elle essaie de se séparer de cette mère dont elle sent qu'elle est profondément nocive pour elle, il faut trouver des repères, il faut trouver des adultes qui soient, elle le dit elle-même, qui soient droits, qui ne trichent pas. Dans la première saison, il y avait cette prof de français, il y avait une éducateur aussi quand même. Mais et là, cette fois-ci, la rencontre avec une personne qui travaille dans le garage où elle est embauchée, qui est une femme et qui, avec elle, à son contact, elle va apprendre cette bienveillance-là qui n'a pas d'arrière-pensée, qui est au fond le véritable amour, c'est-à-dire qui est totalement gratuit.
Et il fallait que ce soit une femme.
Bah, il fallait que ce soit une femme parce que, enfin, on s'est beaucoup interrogé avec Antoine Lacomblaise, le scénariste avec qui, avec qui je travaillais, sur ça, mais tout dans le personnage nous conduisait à cette rencontre avec ce type de bienveillance et c'était oui, il fallait que ce soit une femme, il fallait qu'elle apprenne d'une femme ce type d'amour, cette qualité de regard, de bienveillance, de douceur, d'attention, et qui soit totalement gratuit et donc qu'elle puisse se dire oui, ça peut être comme ça aussi l'amour.
Alors il y a deux fils qui se croisent dans Manon, celui qui interroge la vérité et celui qui interroge la justice. Sans doute, je dirais, deux des enjeux les plus cruciaux, les plus saillants, les plus actuels du débat intellectuel, du débat social, du débat politique aussi, qui a secoué notre société et qui continue de secouer, le droit et le mensonge à tous les étages de la hiérarchie sociale. On va commencer par le vrai.
Tu sais ce que c'est le problème avec toi ? Tu dis toujours ce que tu penses. Tu peux pas tricher. T'es honnête comme j'ai jamais vu quelqu'un l'être, je crois.
Non, c'est pas vrai.
Si.
Arrête.
Mais c'est une des choses que j'aime le plus chez toi, Manon. Ta franchise. Et les colères qui vont avec. T'es incapable de mentir. Des filles comme toi, il y en a pas. Et j'adore ça, Manon.
Arrête, c'est pas vrai.
Puisque je te le dis, sans compter comme t'es choisie.
Tais-toi.
Et voilà, elle claque encore, la porte. Le rapport à la vérité, il est complexe chez Manon parce que parfois elle ment. Et puis son mensonge lui échappe et elle en est toujours la première victime. Est-ce que ça, c'est sa part d'enfance contre laquelle elle doit lutter ?
Je ne sais pas si on doit lutter contre sa part d'enfance, c'est-à-dire que elle, c'est un enfant, il y a un enfant extrêmement blessé à l'intérieur et régulièrement. Cet enfant, il crie, il pleure, il se révolte et ça l'a fait souffrir profondément. Alors avant, elle ne claquait pas des portes, elle se battait. Elle allait à la confrontation par les mots ou par les actes. Elle était très violente. Maintenant, elle a appris finalement à s'esquiver et donc à claquer la porte et à finalement essayer de prendre soin de ce petit enfant en étant toute seule chez elle, en mangeant des carottes.
Mais cet enfant qui a un gros problème avec la vérité, un gros problème avec le réel.
Avec le réel.
Avec ce qu'il lui faut accepter de la réalité.
Oui, mais c'est que moi j'aime beaucoup chez elle ce côté, l'injustice, ça la scandalise tout le temps, en permanence. Elle ne supporte pas l'injustice. Et au fond, par exemple, là, puisqu'elle travaille dans un garage, elle se rend compte qu'il y a des petites choses qui se passent dans le garage, des petites magouilles. Tout le monde se tait, tout le monde le sait. Ça serait beaucoup plus simple pour elle aussi de se taire. Elle conserverait son travail, elle serait appréciée par tout le monde. Sauf que ce n'est pas possible. Même si ça va contre ses intérêts, ce n'est pas possible pour elle. Il faut qu'elle le dise.
Personnage qui a lui-même été puni par la justice dans la première saison, qui a commis un crime. Donc il y a un rapport là entre l'injustice et la justice avec un J majuscule qui est au cœur de tout votre travail, Jean-Xavier de Lestrade, d'auteur, de réalisateur, les procès, les affaires que vous avez raconté, de nombreux cas et sous de nombreuses formes. Évidemment, ça devient chez elle une obsession presque simpliste, et en même temps vous la confrontez à toute la complexité de l'injustice et de la justice dans la vie réelle, un peu cette matière que vous travaillez vous-même.
Oui,
quand je dis qu'elle est la fille de son père.
Oui, complètement. Mais il faut qu'elle apprenne aussi, en fait, devenir adulte. Malheureusement, mais c'est comme ça. Il faut apprendre à faire des compromis. Il faut apprendre. On apprend que la vie, c'est beaucoup plus complexe et que, au fond, il faut savoir faire des petits deuils en soi, renoncer à certaines choses, mais surtout ne pas renoncer à tout.
Et que la justice punit les crimes, mais que derrière, la complexité et la douleur que peuvent créer les êtres humains est toujours là.
Oui. Mais surtout, enfin, j'ai envie de revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur entre la différence entre la morale ou l'éthique et la justice et la légalité. On l'a entendu ce matin, votre invité de la matinale,
Richard Ferrand.
C'est assez frappant. C'est-à-dire que ce qu'il a fait est légalement, il n'y a aucun problème. Donc, au niveau de la justice, il n'y a aucun problème. Mais après, on peut s'interroger au niveau de la morale. Et Manon, on connaît sa réponse là-dessus.
On connaît sa réponse. Alors Manon, dans la première saison, il y a eu ce professeur de français qui lui a fait découvrir le théâtre. Manon, dans la saison 2, elle voudrait essayer au moins une fois de monter sur scène et elle s'essaye à Tchekhov.
Jadis, j'étais heureuse comme une enfant. Je chantais le matin en me réveillant. Je vous aimais. Je rêvais de couloir. Et maintenant, je suis fatiguée. Me reposer. Je suis une mouette. Non, c'est pas ça. Je suis une actrice.
Manon, elle ne peut pas faire semblant et pourtant, elle peut jouer un rôle et elle peut le jouer de manière extraordinairement fine et sensible. Où est la vérité de l'acteur à travers les mots et à travers des personnages de fiction? Jean-Xavier de Lestrade, je vous pose la question parce que là aussi, elle est centrale dans votre travail de réalisateur parce que vous, vous filmez la complexité du genre humain en passant à la fois par le documentaire et en même temps par la fiction. Donc, qu'apporte l'acteur à la vérité et qu'apporte la fiction à la vérité, justement?
C'est parfois, enfin, ce qui est assez frappant, c'est que, au fond, c'est vrai qu'en fait, documentaire, on filme le réel, donc on filme, il y a une forme de vérité qui s'impose puisque on filme ce qui est censé être une réalité et on est les témoins de cette réalité qu'on enregistre. Avec la fiction, tout est faux puisqu'on écrit des histoires, on prend des personnages, enfin, des comédiens pour incarner des personnages et tout ce qu'on filme a priori est faux et conventionnel. Or, on s'aperçoit que à travers les comédiens, à travers les textes et dans l'incarnation des comédiens, on peut toucher à quelque chose qui a à voir profondément avec de la vérité. Et cette vérité, on ne peut l'atteindre que si, avant de filmer des comédiens, on filme des êtres humains. Et moi, j'ai l'impression que j'essaye en tout cas de filmer, avant de filmer les comédiens, j'essaye de filmer l'être humain qui se trouve devant la caméra et d'attraper chez lui cette profonde sincérité qu'il peut dégager et que...
Est-ce qu'on peut dire aussi l'inverse du moment où vous filmez les êtres humains que sont vos personnages de documentaire? Est-ce que vous cherchez chez eux aussi la puissance fictionnelle de ce qu'ils racontent?
Oui, oui, bien sûr.
Du coup, universelle, qui dépasse leur histoire
qui dépasse, bien sûr, leur propre histoire individuelle, leur propre tragédie. Il faut que ça devienne... Oui, oui, c'est pousser le réel vers le romanesque, vers quelque chose qui ouvre beaucoup plus loin que l'histoire que l'on filme, bien évidemment.
Est-ce que Manon va continuer à grandir à l'écran? Est-ce qu'il y aura une saison 3?
Manon,
elle pourrait encore rester avec nous pendant 20 ans. Hein.
Oui, voilà. Enfin, moi, j'ai vraiment le désir et l'ambition de faire un vrai portrait de génération et de suivre cette jeune adolescente depuis l'âge de 15 ans jusqu'à peut-être 30, 35 ans.
Jean-Xavier de Lestrade, Manon, 20 ans, 3 épisodes. Ça commence demain soir à 20h55. Et puis, sachez, c'est sur Arte que la première saison de Manon, qui s'appelait 3 fois Manon, sera diffusée dans la foulée. C'est la fin de l'émission.